Pendant nos 15 premières années en France, Patricia et moi, nous avons travaillé avec une mission qui ne payait pas de salaire. Et la mission et nous-mêmes décrivions notre statut comme vivant par la foi. Nous faisions confiance à Dieu de pourvoir à nos besoins. Et il l'a fait. Pourtant, aujourd'hui, je dirais que vivre par la foi, c'est vraiment bien plus que cela. C'est bien plus que de faire confiance à Dieu pour nos besoins de tous les jours. Et il y a des paroles de l'Écriture qui traversent les siècles avec une puissance particulière. Le juste vivra par la foi, est l'une d'elles. Et cette déclaration, le juste vivra par la foi, revient 4 fois dans la Bible. Et chaque occurrence nous fait gravir une marche supplémentaire dans notre compréhension de ce que signifie vivre par la foi. Donc aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout semble incertain, n'est-ce pas ? Peut-être plus que jamais incertain. Les crises se succèdent, nos projets sont souvent bouleversés, nos espoirs parfois déçus. Et comment développer alors une foi qui non seulement survit aux tempêtes, mais qui grandit et qui s'épanouit jusqu'à atteindre cette confiance absolue dont témoigne le prophète Habacuc, quand lui, le premier, dit « Le juste vivra par la foi ». Et donc c'est ce texte d'Habacuc qui m'a inspiré le message ce matin, mais il faut attendre la fin pour que je parle encore d'Habacuc. C'est ma manière d'être sûr que vous restiez jusqu'à la fin. Hein? D'accord. C'est comme les séries télévisées où il faut toujours attendre la semaine prochaine pour la suite, mais je ne vous fais pas attendre la semaine prochaine, mais juste la fin du message. Okay. Donc, le premier texte que je vais prendre, ce n'est pas dans le prophète Habacuc, mais c'est dans le Nouveau Testament. C'est la foi qui sauve. Et c'est Paul qui, dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains, qui cite Habacuc en disant « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. L'élément clé, la chose la plus importante, c'est d'avoir la vraie vie en Dieu. La vie pour l'éternité avec Dieu. Et le seul moyen de l'avoir, c'est par la foi. Et pourtant, plein de monde essaye de l'avoir par d'autres moyens. Mais toutefois que nous pourrions avoir, même pour accomplir des miracles, si elle n'est pas fondée sur une foi solide en Jésus-Christ, Sauveur du monde, elle est vaine et sans effet. Et donc vous avez sur la droite de l'écran les 5 solas. C'est lors de la réforme, quand Martin Luther, moine catholique, s'est posé beaucoup de questions sur la foi, sur la Bible, sur l'Église dont il faisait partie. Et il a relevé ces 5 choses qui seules sont les bases de notre salut. La grâce seule, la foi seule, Christ seul, les Écritures seules et à Dieu seul soit la gloire. Jésus au centre. Et Paul, pendant sa vie, il était pharisien, donc il avait essayé par les œuvres, par son engagement, à trouver la paix, le salut en Jésus-Christ, mais il a trouvé dans la foi seule. Il dit un peu plus loin dans la même lettre, « Dieu déclare les hommes justes. » Est-ce que c'est... Non. Je ne savais pas si ça allait venir plus grand, non. « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. » C'est un don que Dieu le fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ils sont déclarés justes. Le juste vivra par la foi. Donc le juste, c'est nous. Mais non pas parce que nous avons fait de grandes choses, mais parce que Dieu a eu pitié de nous. Dieu nous a aimés. Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu en Jésus-Christ. Quand on est sauvé par la foi, on a une raison de vivre et un solide fondement pour conduire une vie à la gloire de Dieu. Le juste vivra par la foi, sauvé par la foi, c'est la première étape. La deuxième, c'est dans l'Épître aux Galates, et c'est une foi qui libère. Juste comme j'ai dit qu'il y a beaucoup qui cherchent à gagner le salut et que ça vient plutôt par la foi. De même, pour vivre notre vie chrétienne, une fois que nous sommes sauvés, des fois, nous essayons de prendre tous les commandements, on peut les mémoriser aussi, les 10 commandements, mais il y en a bien plus que ça. Parce que la loi juive avait en tout 613 commandements. Dans vos versets que vous avez appris par cœur, est-ce que vous pouvez repérer les 613 commandements? Personne? Bon, heureusement que Jean-Marie n'est pas là, hein? Donc, non, c'est des fois, même nous, chrétiens évangéliques, nous essayons de tout faire, oui, pour la gloire de Dieu, il le faut, mais nous essayons d'obéir par devoir en regardant les commandements. Et c'est, on va se décourager, n'est-ce pas? Et si tous ceux de l'Ancien Testament ne sont pas arrivés à obéir aux commandements, nous n'arriverons pas non plus. Et donc, c'est là où Paul nous dit, dans ce texte de Galates, c'est... si je me retrouve... Bon, je le lis à l'écran. En effet, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». C'est la liberté. C'est pour la liberté que Jésus est venu. Et donc, pour nous chrétiens, nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes, Et voilà, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Alors, s'il est pratiquement impossible d'obéir aux 613, ces deux-là, c'est faisable. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus a dit que si dans ces deux lois est contenue toute la loi et les prophètes. Donc c'est Jésus qui nous dit, ne regardez pas trop tous les détails, ne prenez pas tout ça sur vos épaules, mais mettez Jésus, Dieu, à la première place et occupez-vous du prochain et vous allez vous trouver en train d'obéir à tous les autres commandements tout seul. C'est la motivation qui vient du cœur, pas de la tête et de l'obéissance cérébrale, mais d'un cœur qui aime Dieu. Si nous avons cela, nous allons vivre par la foi et à la gloire de Dieu. Le juste vivra par la foi. Un petit exemple, une fille qui s'appelait Rachel, qui a grandi dans une communauté chrétienne, mais où certaines règles vestimentaires et alimentaires étaient appliquées. Et elle se demandait toujours si vraiment elle était chrétienne, parce qu'elle n'arrivait pas à suivre tout ce qu'on lui demandait. J'ai connu quelqu'un aussi qui était en visite dans une église. Elle était jeune convertie. Elle est allée dans une église et quelqu'un est venu la voir à la fin du culte. C'est bienvenue, c'est votre première fois, je pense, n'est-ce pas? Elle a dit oui. Il dit c'est très bien. Alors vous serez la bienvenue la semaine prochaine, mais pensez à mettre des bas. Elle n'est jamais retournée. Des fois, nous mettons les règles avant le cœur. Et Dieu veut le cœur d'abord. Et donc, Rachel, elle se demandait si elle était vraiment chrétienne à cause de tout ce qu'on lui demandait. Et elle a appris par ce texte de mettre sa confiance simplement en Jésus. Le juste vivra par la foi. Voilà, donc le MAI, Dieu, aimer notre prochain, lire notre Bible pour savoir ce qui plaît à Dieu et il va nous conduire jour après jour dans ses voies. La troisième occurrence de ce texte, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est là, il s'agit d'une foi qui persévère. Une foi qui persévère. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir tout laisser tomber? Et oui, parce que parfois c'est bien difficile, n'est-ce pas? Il y a tellement de défis, d'épreuves, de problèmes qu'on dit, alors Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds plus à mes prières? Et on a envie ou la tentation du moins de laisser tomber. Et l'Épître aux Hébreux a été écrit à des chrétiens persécutés où justement tout n'allait pas bien. Et ces chrétiens sont tentés d'abandonner leur foi face à la persécution. Ils sont fatigués, découragés et certains pensent à retourner au judaïsme parce que c'était plus simple, plus passe-partout du moins, plus acceptable autour d'eux. Et c'est dans ce contexte que nous trouvons une nuance particulière du texte « Mon juste vivra par la foi » ici. Ici, voilà. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière, mais pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Une foi pour persévérer. Quand on ne voit rien, on persévère. On ne laisse pas tomber, on persévère. Quand on ne voit rien, on attend, on prie. Et Dieu va agir. Le texte nous dit, il ne tardera pas, parce que les chrétiens à l'époque attendaient le retour de Jésus. Au premier siècle, vous vous rendez compte, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Et nous attendons encore, n'est-ce pas? Nous n'allons pas laisser tomber, n'est-ce pas? Il y a une dizaine d'entre vous qui vont persévérer. Parce que Dieu tient ses promesses. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu tient ses promesses. Mais c'est à nous d'attendre qu'elles s'accomplissent. Donc le juste est sauvé par la foi, oui. Libéré par la foi, oui. Mais maintenu par la foi. Ça, c'est un peu moins facile, un peu moins glorieux, n'est-ce pas, le fait de devoir persévérer semaine après semaine, année après année. Mais Dieu nous promet qu'il va répondre. Nous passons à Habacuc. J'ai dit à la fin, mais il y aura juste une autre mention après. Habacuc. C'est une foi qui résiste à l'incompréhension. Est-ce qu'il y a des choses au sujet du Seigneur que vous ne comprenez pas? Il y en a qui disent, bon, petit peu peut-être. Moi, j'aime comprendre. J'aime saisir. J'aime savoir ce que Dieu est en train de faire. J'aime savoir ce que Dieu va faire. Et nous avons des fois, n'est-ce pas, des révélations de la part de Dieu, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance où Dieu parle directement. Et ce sont des moments extraordinaires parce que Dieu nous a parlé. Mais si je regarde toute ma vie de chrétien, ces moments sont relativement rares. La plupart du temps, dans ma foi de tous les jours, je dois persévérer, comme nous venons de dire, je dois attendre. Et les choses que je ne comprends pas, de temps en temps, Dieu me les explique, mais souvent, je reste dans l'incompréhension. C'est énervant. Un Dieu qui parle, et puis me voilà avec des énigmes, avec des choses qui arrivent, et dit, mais Seigneur, ce n'est pas normal. Seigneur, pourquoi tu fais ça? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça? Et me voilà, toujours dans l'attente. Vous vivez des moments comme ça? Oui. Alors, Habacuc, c'est donc dans l'Ancien Testament, C'est un moment où, justement, il priait et il ne semblait pas trouver de réponse. Voilà, au début d'Habacuc. Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu m'entendes? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Quand nous avons tant de guerres dans le monde aujourd'hui, nous sommes tentés de crier, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Quand nous avons des malades dans nos familles, dans notre église, nous sommes tentés de crier, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Nous prions pour les malades. Et des fois, ils sont guéris, et des fois pas. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Et la réponse de Dieu pour Habacuc est venue après un certain temps. Donc il priait parce qu'il y avait le peuple d'Israël avec les Chaldéens tout autour. Et il voulait que Israël remporte la victoire, c'est normal. Et Dieu lui a répondu d'une manière inattendue. Parce que Dieu a dit, je vais faire venir les Chaldéens pour punir Juda, pour punir Israël. Habacuc est en train de prier pour la délivrance d'Israël. Et Dieu dit, j'ai entendu, mais je vais faire le contraire. Ça vous est déjà arrivé que Dieu fasse le contraire de ce que vous avez demandé? On est tenté de dire, Seigneur, c'est pas gentil. Hein? Et pourtant, nous savons que Dieu sait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Donc là, c'est le défi pour notre foi, c'est de dire, Seigneur, tu fais des choses qui sont tout le contraire de ce que je veux, en plus tout le contraire de ce que je pense que tu devrais faire, mais tu le fais quand même. Seigneur. Seigneur, que faire? Et Dieu lui répond encore, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tardé, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur. Mais le juste vivra grâce à la foi. C'est un peu comme dans Hébreux, n'est-ce pas? La persécution, la tentation de laisser tomber, mais il dit non, tenez bon. Le juste vivra jusqu'à la foi. L'Éternel va intervenir. Le Seigneur va revenir. Mais il faut encore patienter. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur. Dans les Hébreux, on a lu un peu la même chose. Le juste vivra par la foi. Même si vous n'y comprenez rien, il nous dit, faites-moi confiance. Et à la fin du livre, donc c'est juste trois chapitres, Et c'est un peu le texte clé. Je vous recommande ce verset-là. C'est un peu long, mais je vous recommande ce verset pour apprendre par cœur. Car le figuier, donc toutes ces conditions, c'est si le figuier ne bourgeonne pas, il n'y aura plus de raisins dans les vignes, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos et les bovins de leurs étables. Donc si absolument tout va mal, s'il n'y a plus d'espoir autour, il dit « Mais moi !» Et que nous puissions le dire avec lui. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. » Combien de fois nous trouvons-nous dans la situation d'Habacuc? Un diagnostic médical inattendu, une perte d'emploi, une relation qui se brise, un projet qui échoue. Et nous crions, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et il nous répond de cette manière-là. Qu'il va faire que toute chose concourt à notre bien. Mais il faut tenir bon. Il faut garder la foi à ce moment-là. Ce verset, je l'ai vécu et mémorisé à un moment particulier dans ma vie. Je venais d'être accepté comme pasteur à une église à Charleville-Mézières. Nous étions à Paris jusque-là. Et nous étions en visite à l'église pendant un week-end. Et nous repartions le dimanche soir pour rentrer à Paris. Et sur l'autoroute, on était sur le point d'arrêter pour prendre quelque chose à manger. Et une voiture nous est rentrée dedans, pas derrière. On a tourné sur l'autoroute, on a fini dans la barrière du milieu. On n'était pas blessé. Donc je suis sorti, je suis allé voir dans l'autre véhicule s'il y avait des blessés, et il paraissait que oui. Donc on a appelé les secours, et puis moi j'étais là à essayer d'aider les autres. À ce moment-là, une troisième voiture arrive. Moi, je suis derrière. Troisième voiture arrive, nous ne nous voyons pas. Et je suis écrasé entre cette voiture-là et la deuxième voiture. Donc, je finis à l'hôpital avec un double fracture du bassin. Au moment où mon fils devait être baptisé, on préparait notre déménagement, préparer un nouveau ministère dans une nouvelle église. Et je suis arrivé quelques temps plus tard. Il y avait le pasteur sur place qui prenait sa retraite et qui avait l'air en pleine forme. Et moi, le nouveau pasteur, suis arrivé en béquille avec ma tête rasée à cause d'une petite intervention. Je disais, Seigneur, pourquoi? Et j'ai eu, évidemment, les premiers jours à l'hôpital du mal à dormir, et je récitais ce verset pour me rappeler à l'ordre, parce que je voulais me fâcher avec Dieu. Je dis, Seigneur, c'est pas normal. Tu te prends pour qui? Ah, oui. Le Dieu suprême. Et donc, j'ai dû apprendre à dire, bon, Seigneur, toi tu sais. Et pendant ces jours, je disais, je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Et il faut passer par là. Pour avoir une foi qui tienne la route, il faut avoir une foi qui a été bien éprouvée. Et tout peut aller de travers. Je peux ne rien y comprendre, mais je veux me réjouir en l'Éternel quand même. Amen. Et c'est quand nous avons cette foi-là que nous tiendrons. Quand nous avons cette foi-là, nous verrons le Seigneur faire de grandes et de belles choses. Pas toujours quand nous le voulons, mais il le fera. Et ce sera mon dernier point, c'est une autre foi qui n'est pas... Donc on a déjà regardé les quatre fois où il y a le texte « Le juste vivra par la foi », mais il y a un autre genre de foi dont nous parlons peut-être plus souvent, et c'est la foi qui sait, la foi qui saisit, qui déplace les montagnes. Que nous trouvons dans Marc 11. « Si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là », et jette-toi dans la mer, sans doute et dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il a dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Et il y a une belle amen là, mais je pense que nous voulons tous dire amen à des textes comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est, en réalité, nous aimerions nous passer des quatre autres genres de foi, et ne vivre que celle-là. Voir Dieu intervenir, agir, accomplir des miracles, transformer des vies, transformer le monde, guérir les malades, relever les morts. Et il le fait. Mais pas toujours quand nous le voulons. Cette foi-là, c'est une foi qui sait, qui ne doute pas dans son cœur. Et cette foi-là, c'est le don de foi que nous lisons dans 1 Corinthiens 12, un autre, la foi par le même esprit. Ce don de foi, c'est... Bon, un don peut être donné à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais si nous sommes passés par les autres étapes de foi, nous sommes mieux préparés, mieux équipés pour recevoir et utiliser ce genre de don de foi. Une foi qui ne doute pas, parce que Dieu nous a révélé qu'il va répondre à cette prière-là. Vous avez des fois des prières, vous avez prié pendant des semaines, peut-être des mois, sans voir de résultat, et puis un jour, vous priez pour le sujet, et vous avez le sentiment, ça y est, je sais aujourd'hui que Dieu va répondre. Ça, c'est le don de foi. C'est cette foi qui sait que Dieu va agir. Et à ce moment-là, nous pouvons prier pour le malade et le voir guérir. Parce que c'est une parole spécifique, un rhéma de la part de Dieu. Et il va agir. Mais cette foi-là, c'est aussi une foi qui doit grandir en nous. Et c'est en vivant toutes les autres expériences de foi, les expériences qui passent les épreuves, que nous sommes préparés pour recevoir ce don de la foi qui sait. Parce que Dieu veut nous utiliser. Il y a des exemples de ministères, John Wimber, Kathleen Kuhlman, etc., qui ont vu énormément de miracles dans le ministère. Mais ce sont des personnes qui ont traversé de grandes épreuves pour en arriver là. Leur foi a été éprouvée avant que Dieu agisse pleinement et puissamment à travers le ministère. Donc, pour résumer, 5 dimensions d'une foi grandissante. 5 dimensions où notre parcours nous a amenés dans 5 dimensions différentes de la foi qui grandit. Une foi qui sauve. Face à la culpabilité, nous nous rappelons que nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Une foi qui libère. Face au légalisme, nous vivons dans la liberté que Christ nous a acquise. Le juste vivra par la foi. Face au découragement, nous persévérons en gardant les yeux fixés sur Jésus. Une foi qui persévère. Et la foi d'Habacuc, face à l'incertitude et l'incompréhension, nous faisons confiance à Dieu malgré tout, parce qu'il est parfait dans toutes ses voies. Et puis, si Dieu le veut, et quand notre foi a été éprouvée, face à l'impossible, notre confiance en un Dieu bon et tout puissant peut nous amener dans le miraculeux. Quelle foi avez-vous? Est-ce que vous avez toutes les 5? Est-ce que vous cherchez plutôt juste la dernière et que vous aimeriez vous passer des 4 autres? C'est tentant. Mais ça ne marche pas comme ça. La foi que Dieu approuve est cette foi qui peut lui faire confiance quand rien ne va. Cette foi qui peut tenir bon quand nous ne comprenons rien. Vous pouvez peut-être imaginer pour la famille Lito, Jean-Marie hospitalisé, d'urgence opéré, en train de se remettre aujourd'hui, mais avant d'être hospitalisé, il y a eu des prières pour que le Seigneur intervienne miraculeusement. Parce que nous sommes une église qui croyons à cela. Mais des fois, Dieu fait autrement. Et c'est son droit. Et quand il le fait, il sait ce qu'il fait, même si nous n'y comprenons rien. C'est là où nous devons nous poser la question, est-ce que mon Dieu est plus grand que mon raisonnement? Et j'espère que nous allons tous finir en déclarant, je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Nous pouvons le dire ensemble. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Amen. Parce qu'il est fidèle et il le fera. Seigneur, nous te confions tous nos pourquoi, toutes nos rébellions, tous nos doutes, tous nos désirs de tout comprendre. Nous proclamons quand même, Seigneur, que tu es plus grand que tout cela. Tu es au-dessus, tu règnes d'éternité en éternité. Tu es Dieu. et tu es un Dieu bon, compatissant. C'est toi qui es venu nous chercher, Seigneur. Et nous voulons te bénir même si nous ne comprenons pas tout. Nous voulons te bénir parce que tu seras fidèle. Nous voulons te bénir parce que toutes tes promesses, tu vas les accomplir. Et nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir, d'être tes enfants. Amen.